Bonjour et bienvenue dans la revue hebdomadaire de l'IA et du code. Cette semaine, une question a dominé tous les débats. Opus 4.8, le nouveau modèle d'Anthropique, est-il vraiment le grand saut qu'on attendait? La réponse courte, selon Nate B. Jones, dans sa vidéo Opus 4.8 Scored Cartesian, Your Workflow Doesn't Care, c'est non. Et la réponse longue est encore plus intéressante. Jones le dit clairement. Opus 4.8 n'est pas un game changer, c'est un checkpoint release, un modèle sorti principalement pour accompagner une annonce de financement. Ce qui est particulièrement troublant, c'est son comportement sur le vending bench. Au niveau de raisonnement le plus élevé, il performe moins bien qu'au niveau intermédiaire, et même moins bien qu'Opus 4.7. Ce n'est pas censé fonctionner comme ça. Jones explique le problème par ce qu'il appelle l'overthinking. Le modèle passe trop de temps à réfléchir à sa propre constitution, à vérifier s'il est bien aligné, au lieu de simplement résoudre la tâche. Le résultat concret? Quand on lui demande de déployer deux sites web, Claude 5.5 couplé à Codex les livre tous les deux, complètement fonctionnels, en itérant de manière autonome. Opus 4.8 échoue deux fois dans le même test. La leçon centrale de Jones, et c'est là que ça devient vraiment utile pour ceux qui prennent des décisions d'architecture, ce qui compte en 2026, ce n'est plus le modèle lui-même, c'est le harness autour. Le scaffolding, le système qui orchestre le modèle. Et pour cette raison, il recommande fortement de construire des systèmes avec une flexibilité de swap d'API, plutôt que de se lier à un seul fournisseur. Ce constat rejoint directement ce que World of AI documente dans son comparatif GPT 5.5 versus Opus 4.8 versus Gemini 3.5 Flash. Chaque modèle a sa niche claire. GPT 5.5 gagne sur les tâches de coding complexes et les workflows agentiques grâce à sa consistance. Opus 4.8 excelle en design et en écriture, une force historique de la ligne Opus, et Gemini 3.5 Flash s'impose pour les itérations rapides et bon marché. Cole Médin transforme cette observation en stratégie de production concrète dans sa vidéo « Claude Plan, Gemini Designs ». Il construit un workflow en 8 étapes dans Archon, Gemini 3.5. Flash s'occupe de la génération d'interfaces, Opus prend en charge la planification et l'intégration back-end, le tout routé via OpenRouter pour garder une liberté totale de fournisseur. C'est élégant et c'est exactement le type d'architecture que Jones appelle de ses vœux. Dans ce même univers anthropique, une question a alimenté beaucoup de spéculations cette semaine. Le mystérieux modèle Mythos va-t-il bientôt être rendu public? Nate Herc reconstruit la chronologie dans Is Claude Mythos Coming? Le modèle a brièvement apparu sur l'API avant de disparaître. Il est spécialisé en cybersécurité et il n'est distribué pour l'instant qu'à des partenaires sélectionnés dans le cadre du Project Glasswing. World of AI mentionne même un potentiel successeur nommé Oceanus. Herc reste prudent, et c'est la bonne posture. La spéculation dépasse largement les faits disponibles, et il est plus probable que les capacités de Mythos soient progressivement intégrées dans les futures versions d'Opus plutôt que publiées comme modèle indépendant. La vraie nouveauté structurelle chez Anthropic cette semaine, c'est ailleurs. Les Dynamic Workflows dans Claude Code ont été le sujet le plus discuté parmi les créateurs. Marc Kachef, dans Master All 6 Claude Code Dynamic Workflows, explique les 6 patterns fondamentaux de manière systématique. Classifier et agir, déployer en éventail et synthétiser, vérification adversariale, générer et filtrer, tournoi et boucler jusqu'à complétion. Les applications concrètes vont du tri d'email aux audits de due diligence. Nate Herc, lui, classe ses Dynamic Workflows en tier B dans son ranking des 12 meilleures fonctionnalités de Claude Code après plus de 500 heures d'utilisation. Utile, dit-il, mais pas encore indispensable au quotidien. Ce qui trône en haut de son classement, les skills, les sub-agents, la commande slash goal et l'auto-memory. Effet notable que Bart Sloditska démontre dans une autre vidéo, il est tout à fait possible de faire tourner ses Dynamic Workflows avec des modèles locaux via LM Studio, sans clé API anthropique, donc gratuitement. Du côté des modèles locaux et open source, deux sorties méritent vraiment l'attention. D'abord, Gemma 4.12b de Google, que Bart Slodzicka teste sur un Mac Mini M4 à 16 Go de RAM. Le résultat est surprenant. Ce modèle de 12 milliards de paramètres approche les performances du modèle 26B MoE avec multimodalité texte, images et audio, une fenêtre de contexte de 250 000 tokens et une fonction de prédiction multi-token qui accélère la génération. Pour ceux qui veulent faire de l'IA locale sérieuse sur du matériel grand public, c'est une option qui change la donne. Ensuite, Minimax M3, présenté par World of AI comme la surprise open source de la semaine. Ce modèle combine performance de pointe en coding, raisonnement multimodal et workflow de longue durée, en dépassant selon les tests GPT 5.5 et Gemini 3.1 Pro dans plusieurs catégories, à une fraction du coût des modèles propriétaires. Il est accessible via l'API Minimax, la plateforme M-Code et OpenRouter. Nvidia a aussi fait beaucoup de bruit cette semaine depuis la GTC Taipei. Nemotron 3 Ultra, avec 550 milliards de paramètres sur une architecture hybride Mamba Transformer. 5 fois plus rapide en inférence, 30% moins cher que les modèles ouverts comparables, avec des données d'entraînement publiées. Et RTX Spark, un super chip combinant GPU Blackwell et CPU Grace, conçu pour faire tourner des agents IA localement sur des laptops grand public. Tim Karambat ajoute à ce tableau la plateforme N1 et N1X avec le superchip GB10 qui devrait permettre de faire tourner des modèles de 120 milliards de paramètres avec un contexte d'un million de tokens directement sur un ordinateur portable. On n'y est pas encore, mais la direction est claire. En dehors du monde anthropique, les coding agents ont aussi eu leur semaine chargée. Tech with Team teste Composer 2.5, le nouveau modèle de Cursor, face à Opus 4.7 et GPT 5.5. Il est nettement plus rapide, 0,150$ par tâche contre 7$ pour Opus 4.7, et dans sa démo live, il livre une application web fonctionnelle en premier. Melvinx est plus nuancé dans sa propre vidéo. Composé 2.5 convient bien aux petits correctifs, mais ne rivalise pas avec les modèles de pointe en qualité et fiabilité sur des tâches complexes. Léon Van Zyl présente OpenCode comme une alternative plus efficace à Claude Code pour les modèles locaux, notamment parce qu'il consomme beaucoup moins de tokens pour ses systèmes prompts et s'intègre sans friction avec Olama. Et Neural9 présente CC Usage, un outil open source qui analyse la consommation de tokens des différents CLI d'agents de coding, Claude, Codex, OpenCode, et estime les coûts API réels, même quand on est sur une subscription. Théo de t3.gg a livré plusieurs essais qui méritent un arrêt. Sur le rachat de Vite via Void0 par Cloudflare, il y voit une manœuvre stratégique majeure, Cloudflare construisant une plateforme cloud optimisée pour les agents qui challenge Vercel directement. Sur la dette technique des prompts, les collections de prompts dans les fichiers cloud.md ou agent.md deviennent exactement le même type de problème de maintenance que du code gonflé. Et il recommande des prompts minimaux et spécifiques. Et sa thèse la plus provocatrice, les outils IA réduisent l'impact négatif des ingénieurs moins compétents en forçant de meilleures décisions techniques. Une affirmation qui ne fait pas l'unanimité, mais qui ouvre un vrai débat. Brian Cassell adresse un problème que beaucoup de builders reconnaîtront, le design drift. Quand un agent IA génère de l'interface à chaque session sans référence commune, il réinvente les couleurs, la typographie et les composants à chaque fois. Sa solution: ancrer un système de design complet dans le fichier cloud.md ou agent.md qu'il propose sous forme de template Rails et React. Hermes a été la plateforme agentique la plus discutée de la semaine. Et pour cause, la nouvelle application desktop est arrivée pour Windows, macOS et Linux. Alex Finn, AI Meet Arnie, World FAI et DI Grid l'ont tous couverte. Le consensus: l'installation est infiniment plus simple qu'avant, et les fonctionnalités comme le Kanban Orchestrator, les Background Sessions et le Curator Daemon qui archive automatiquement les skills obsolètes placent Hermes clairement au-dessus des simples wrappers de chatbot. Julian Ivanov détaille 8 nouvelles fonctionnalités, dont la Session Search, une recherche plein texte dans les conversations passées qui ne consomment aucun token, et le Kanban Swarm, où plusieurs agents travaillent en parallèle avec un agent vérificateur qui contrôle les résultats. Maintenant, un vrai changement de registre. Au-delà des outils et des modèles, plusieurs voix cette semaine ont posé des questions plus larges sur ce que tout ça signifie. Nate Herc cite un rapport interne d'Anthropic selon lequel plus de 80% du code livré par l'entreprise est désormais écrit par Claude, et que le modèle atteint un taux de réussite de 76% sur des tâches ouvertes contre 26% il y a 6 mois. Herc interprète ça comme un seuil d'AGI factuel. C'est une lecture audacieuse et elle mérite d'être questionnée, mais les chiffres eux-mêmes sont frappants. David Shapiro, lui, démonte le viral dernier 300 jours du travail. L'IA augmente effectivement la productivité, mais la courbe d'adoption sociétale des processus décisionnels en entreprise jusqu'à l'acceptation individuelle prend bien plus de temps que les prédictions à court terme ne le suggèrent. Et sur la proposition de Bernie Sanders de créer un fonds d'État prenant 50% des parts d'OpenAI, Anthropic et xAI, Shapiro propose un contre-modèle. Acquisition passive de jusqu'à 10% d'un large portefeuille d'entreprises tech sans contrôle actif. Nettement moins spectaculaire, mais constitutionnellement défendable. Le professeur Mainzer, dans son interview chez Everlast AI, critique le machine learning actuel comme une simple optimisation statistique incapable de reconnaître des relations causales et propose la physical AI, intégrant des lois naturelles directement dans les modèles, ainsi que les architectures neuromorphiques, memory stores et systèmes photoniques, comme alternative énergétiquement viable. Et l'historien Jürgen Kokka rappelle que les ruptures technologiques ont toujours produit des bouleversements sociaux avant d'ouvrir de nouveaux champs professionnels. La question n'est pas de savoir si ça va perturber, mais comment on gère la transition. Quelques notes rapides pour finir. Le pendant IA de Meta, basé sur la startup Limitless, ne sera pas testé avant 2027 au plus tôt, et The AI Grid note que les questions de vie privée et d'acceptation du marché restent entières. Le chip quantique Majorana 2 de Microsoft promet des qubits stables jusqu'à 1 minute contre des microsecondes auparavant, avec un usage commercial envisagé au mieux pour 2029. Le système de mémoire mis à jour de ChatGPT, expliqué par The AI Grid, stocke maintenant automatiquement du contexte depuis les chats, fichiers et applications connectées. Et NUTN version 2.22 introduit le support OpenTelemetry pour intégrer les traces de workflow dans des systèmes de monitoring distribués existants, disponibles même dans le plan communautaire gratuit. Ce qui reste après cette semaine, c'est une idée assez inconfortable. Le rythme des sorties de modèles est devenu tellement rapide que le modèle lui-même est presque devenu secondaire. Ce qui compte, c'est la couche autour, le harness, l'orchestration, le système de mémoire, la flexibilité d'architecture. On est en train de passer d'une ère où l'on choisissait un modèle à une ère où l'on conçoit des systèmes. Et cette transition-là, elle est silencieuse, mais elle est probablement plus profonde que n'importe quel benchmark.